Audacieuses à toutes. Cette semaine, sous mon olivier, j'ai lu pour vous Le design selon Pierre Paulin. Cet ouvrage a été édité à l'occasion de l'exposition consacrée aux designers par le musée Fabre de Montpellier du 27 juin au 1er novembre 2026. C'est la première fois qu'une grande exposition est dédiée au design du XXe siècle dans l'histoire du musée. Ce choix affirme la volonté d'élargir le regard porté sur la création et d'explorer, aux côtés des beaux-arts, les formes majeures de l'innovation artistique et industrielle. Figure essentielle du design français, Pierre Paulin a su capter l'esprit de son temps et traduire avec audace et sensibilité les aspirations d'une société en pleine mutation. Dans l'effervescence des années 60-70, marquée par l'émergence des nouveaux modes de vie, de nouvelles technologies et d'un désir accru de liberté, il invente des formes inédites, souples et profondément humaines. Ses créations emblématiques, aujourd'hui conservées dans les plus prestigieuses collections internationales, telles que le MoMA de New York, continuent d'inspirer notre rapport au confort, à l'espace et à la modernité. En replaçant ses œuvres dans leur contexte historique, artistique et sociétal, le musée nous invite à comprendre comment les objets qui nous entourent racontent notre histoire collective, accompagnent nos usages et façonnent notre quotidien. Pierre Paulin s'est installé en voisin dans les Cévennes à la fin de sa vie, et sa renommée dépasse largement Montpellier et sa région. Actif pendant 3 décennies, il fut familier des commandes présidentielles pour Georges Pompidou ou François Mitterrand. Il a ainsi rénové les appartements privés de l'Élysée pour le premier et réalisé le bureau présidentiel du second. Quelques mots sur la biographie avant de revenir au design. Pierre Paulin est né à Paris en 1927. En 1930, la famille s'installe à Laon, dans l'Aisne, où le père ouvre un cabinet dentaire. En 1939, la France entre en guerre et Laon passe sous occupation allemande. La famille Paulin s'exile alors à Lectoure dans le Gers, chez le grand-père paternel. Le jeune garçon va alors être influencé par son grand-oncle, le sculpteur Freddy Balthazar Stoll, mais aussi par son oncle Georges Paulin, ingénieur et designer automobile qui le fascine. Malgré l'occupation, la famille retourne à Laon en 1941. L'oncle Georges va alors être soupçonné d'intelligence avec les services secrets britanniques, arrêté et fusillé au Mont Valérien en 1942. Pierre Paulin, à l'issue d'une scolarité sans diplôme, s'initie à plusieurs pratiques, dont le modelage et la céramique à Valoris. Il se rend ensuite à Bonn en Bourgogne pour apprendre le métier de tailleur de pierre. En 1948, il intègre à Paris le Centre d'art et de technique, école de perfectionnement d'art décoratif qui deviendra plus tard l'école Camondo. Il en sort diplômé en 1950, il entre alors en stage au bureau d'études de Marcel Gacouin, figure majeure du design de la reconstruction d'après-guerre et spécialiste du meuble fonctionnel produit en série. Il voyage alors en Allemagne et Scandinavie et se confronte au design nordique, notamment aux réalisations d'Alvar Aalto. Suivons ses premières créations pour le fabricant de meubles Tonné Frère. En 1953, il expose son living room au Salon des Arts Ménagers et fait la couverture du numéro 72 de la revue La Maison Française. En 1954, il entre au service de décoration des galeries Lafayette et découvre le travail des designers américains. En 1957, son fauteuil créé par la société Meubles TV est sélectionné pour la 11e triennale de Milan. Il effectue des recherches sur les propriétés élastiques des tissus et le confort des assises. Ce sera alors le début de la reconnaissance internationale. Il reçoit plusieurs prix, va créer les luminaires de la maison de la radio et la devanture du magasin Roche-Beaubois. Il imagine plusieurs projets pour l'automobile, pour BMW et Renault. En 1966, il entame une longue collaboration avec l'atelier de recherche et de création du mobilier national. En 1967, le MoMA de New York le fait rentrer dans ses collections. Je passe sur grand nombre de ses créations. Il est maintenant totalement reconnu, décore le pavillon de France à l'exposition universelle d'Osaka en 1970, et conçoit en 1976 les fauteuils du Concorde et réalisera en 1986 l'aménagement intérieur de l'Airbus et reçoit le Grand Prix national de la création industrielle. Il s'installe dans les Cévennes en 1992 et meurt à Montpellier en 2009. Il aura sa première exposition rétrospective au Centre Pompidou en 2016. Revenons maintenant rapidement à l'histoire du design. Depuis toujours, on a opposé le beau et l'utile. Et cette opposition va s'exacerber au XIXe siècle avec la révolution industrielle. Cette opposition théorique se poursuit au XXe siècle dans le champ du design jusqu'à la création en Allemagne, entre les deux guerres, de l'école du Bauhaus. Le postule que la beauté peut émerger de la rationalité même de l'objet. En France, Le Corbusier révolutionne l'architecture et Charlotte Périard, créatrice exceptionnelle, révolutionne le métier d'architecte d'intérieur. À l'issue de la Seconde Guerre, l'ampleur des désastres nécessite de gros efforts de reconstruction et de modernisation. C'est la naissance de la fameuse société de consommation. Le virage est ainsi pris. Et c'est dans cette nouvelle mouvance que Pierre Paulin va pouvoir s'exprimer. Il fallait raser le passé pour construire l'avenir. Le recours aux techniques et matières du temps présent vont conduire à l'interpénétration absolue de cette technique aux formes nouvelles possibles. Cette période où l'homme va sur la Lune et où les jeunes se révoltent contre la guerre au Vietnam, le domaine de la mode est l'un des secteurs qui illustre le mieux la conquête émancipatrice des corps. Pourrais-je provoque le scandale, mais la mini-jupe va s'imposer. Pierre Paulin révolutionnera de même le fauteuil. Le mobilier doit habiter les espaces, mais aussi les structurer. Et les jeunes aiment être assis au ras du sol. Pierre Paulin fait partie des pionniers du design français moderne et a pu en expérimenter différentes voies tout au long de sa carrière. Et comme tous les créateurs de son époque, il aspire à devenir un designer industriel, c'est-à-dire dessiner des projets qui puissent être fabriqués en grande série et mis à la disposition de tous. Le designer n'est plus le créateur unique d'un objet, c'est un travail collectif au service du public. Avec cette exposition, le musée Fabre de Montpellier réaffirme son attachement à une culture ouverte, curieuse et exigeante. Elle est une invitation à porter un regard renouvelé sur notre environnement quotidien, sur notre manière de vivre et de penser le monde. Pour nos lectures, alors c'est Manon Kévé.